Chapitre 4. Belle-Dieu n'avait pas été le seul conseiller municipal qui avait voulu faire une démonstration en faveur de l'institutrice nouvelle. Son exemple avait été suivi. C'était bien de lui apporter son mobilier, mais ce n'était pas tout. Il fallait l'emménager. Elle arriverait le soir, n'ayant rien de prêt pour faire sa cuisine. Il fallait lui offrir à souper. Un menuisier et une aubergiste, qui étaient conseillers municipaux et adjoints, voulurent, chacun dans sa partie, faire pour elle ce qu'avait fait Pelle-Dieu. À peine était-elle descendue de Charette qu'un petit homme à lunettes en fer, M. Bonneau, entrepreneur de menuiserie et premier adjoint, lui tirait sa casquette à large visière et lui disait « Ne vous inquiétez de rien, mademoiselle, indiquez-moi seulement où vous voulez placer vos meubles et je me charge du reste. » Puis, presque aussitôt, un autre personnage rubicon et pansu s'avançait à son tour en la saluant. « Pendant que Bonneau va installer votre mobilier, faites-moi le plaisir, mademoiselle, de venir souper à la maison, au Turc, chez Fillette, Éloi, votre serviteur. » Hélène voulut remercier, mais Pelle-Dieu intervint pour lui expliquer qu'il s'agissait de faire la barbe aux sœurs, et elle dut accepter aussi bien les services de l'adjoint Bonneau, qui avait amené deux de ses ouvriers avec lui, que ceux du deuxième adjoint Fillette. Après avoir choisi les places que ses meubles devaient occuper, elle se rendit avec sa grand-mère à l'auberge du Turc, dont l'ancienne se balançait sur la place en face le porche de l'église. C'était une belle auberge à l'ancienne mode, avec tout un arsenal de casseroles en cuivre rangées le long des murs et un immense fourneau en faïence fleurie, ce qu'on appelle un potager, sur lequel la cuisine se faisait au charbon de bois, au milieu de flammes bleues ou de nuées d'étincelles, et non sur une plaque en fonte rougie au charbon de terre. C'était devant ce potager qu'il fallait, les jours de marché ou de fête, voir Madame Fillette, la tête coiffée d'un bonnet de coton, la taille serrée dans un tablier à bavolet, faire sauter ses casseroles et préparer à dîner pour 40 ou 50 personnes, tandis que M. Fillette, qui n'avait d'autre souci que de déguster savamment la cuisine de sa femme, se contentait de mêler les dominos en bidant des glorias et des mocs de cidre. Hélène avait cru que l'aubergiste l'invitait à souper avec lui, et c'était ce qu'il avait décidé à accepter, n'osant pas refuser une des autorités qui allait la tenir en ses puissantes mains. Mais elle se trompait. Lorsqu'elle entra dans l'immense cuisine, Madame Fillette vint au devant d'elle, et après l'avoir saluée poliment, elle la conduisit dans la salle commune, où sur une petite table deux couverts seulement étaient mis. « On va vous servir tout de suite, mademoiselle, le temps de tremper la soupe. » Hélène ne trouva rien à répondre. On ne tarda pas, en effet, à les servir. Un dîner d'apparat commandé par M. l'adjoint, exécuté par Madame son épouse, potage, deux poissons, deux entrées de viande, un rôti. Ce fut seulement au dessert que l'aubergiste, accompagné de ses deux amis, Pelle-Dieu et Bonneau, fit son entrée dans la salle. Tous trois prirent place à la table voisine de celle d'Hélène, et aussitôt on leur servit toutes sortes de boissons apéritives dans des bouteilles de forme bizarre qui étaient des statuettes en verre coulé de patriotes populaires. « Mademoiselle, dit le menuisier, en prenant une bouteille qui représentait un patriote d'opinion modérée, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre logement est en ordre. »« Eh bien, mademoiselle, demanda l'aubergiste, en abaissant le goulot d'un patriote plus avancé, avez-vous bien soupé ?»« Comme ça, mademoiselle, demanda Pelle-Dieu. N'êtes-vous pas fatigué de votre course? Un peu secoué, n'est-ce pas? » Et continuant, il épargna à Hélène la peine de répondre. Ici, sa jument grise avait fait telle chose. Là, sa jument rouanne en avait fait telle autre. Longuement, l'histoire de sa course de Condé à Ivranche, qui eut probablement duré éternellement, les éleveurs étant encore plus prolixes sur les mérites de leurs chevaux que les chasseurs sur leurs hauts faits, si le menuisier Bonneau ne l'avait interrompu. Avec moins d'initiative que Pelle-Dieu, il paraissait avoir plus de jugement. C'était la forte tête du trio. Au moment où, pour la 20e fois, Pelle-Dieu lançait un « la seule chose que n'y a », Bonneau lui coupa la parole. « Ce n'est pas tout ça, » dit-il en retirant ses lunettes. « L'heure a sonné, il me semble, de souhaiter la bienvenue à mademoiselle dans notre pays. » Il avait été deux fois à Condé et une fois à Paris, à la Chambre, pour entendre des grands orateurs, et il avait la prétention d'être le seul à Ivranche qui sût ce que c'était que l'éloquence. Sur ce thème, la bienvenue, il récita un petit discours qui rappelait de loin ce qu'il avait entendu ayant eu la chance précisément d'assister à une séance de la chambre dans laquelle on avait vanté les bienfaits de l'instruction. « Certainement, » interrompit Fillette, qui trouvait que Bonneau parlait trop longuement. « Il faut de l'instruction pour les enfants. C'est même pour cela que nous vous avons fait venir. Seulement, il n'en faut pas trop. Écrire, compter, voilà. »«
Vous permettez bien un peu d'histoire de France, » dit Hélène.
« À quoi bon ? L'histoire ne nous montre que le crime triomphant. »
« Et un peu de géographie, » dit Hélène, sans relever cette observation.
« Je n'en vois pas l'utilité, » dit Fillette. « En quoi voulez-vous que ça intéresse des jeunes filles qui ne quitteront jamais leur pays ?»
Hélène se mit à sourire.
« Elles seront mères, ces jeunes filles, n'est-ce pas ? » dit-elle.
« C'est probable.
Elles auront des enfants. Des fils qui seront soldats et qui écriront à leur mère. Cette mère aura intérêt à savoir et son fils, dans le nord ou dans le midi, quand cela ne serait que pour lui envoyer un tricot de laine s'il est dans le nord, ou un tricot de coton s'il est dans le midi.
« Bravo !» s'écria Bonneau.
« Voilà les bienfaits de l'instruction. »
Pelleilleux et Fillette parurent réfléchir un moment, puis, levant leur verre en même temps, ils burent à la santé de Mademoiselle Marguerite.
« Fameux !» s'écria Pelleilleux. « Des gilets de laine dans le midi, des gilets de coton dans le nord. »
« Non, » interrompit Bonneau, « de la laine dans le nord, du coton dans le midi.
Ça ne fait rien, » répliqua Pelleilleux. « Je comprends la géographie. »
Et, frappant sur la table, il voulut qu'on servît un verre de doux à Mademoiselle Marguerite. Mais Hélène, qui s'était levée, refusa. Elle avait son logement à mettre en ordre. Sa grand-mère était fatiguée, elle désirait se retirer. Alors ils les accompagnèrent, et tout en marchant, Pelleilleux répétait
« Fameux, la barbe de la sœur Philigone est faite.
« Vive notre député !» disait Fillette.
« Si vous avez besoin de nous, dit Bonneau, vous n'avez qu'un signe à faire. »
À la fin, ils les quittèrent.
« Voilà de braves gens, » dit la grand-mère, lorsqu'elles furent seules dans leur logement.
« Je crois, » répondit Hélène, « que nous serons heureuses ici. Le pays est superbe. »
« Si le pays était superbe, le logement, par contre, ne l'était pas. Il occupait le premier étage au-dessus de la classe, et il se composait d'une vaste cuisine et de trois grandes chambres, mais le tout délabré, usé, sale comme le bâtiment de la mairie lui-même. Quand elles eurent fait leur lit et que la grand-mère fut couchée, Hélène descendit dans la classe qu'elle avait à peine vue. Il n'y restait que les quatre murs, les tables, les bancs et la chaire, les sœurs en partant, ayant emporté tout le reste du mobilier scolaire qui leur appartenait, les cartes, les tableaux, les armoires. Machinalement, Hélène était montée dans la chaire et elle s'était assise. Elle resta longtemps ainsi, réfléchissant, rêvant. C'était dans cette chaire que désormais allait s'écouler sa vie entre ces quatre murailles. Mais il n'y avait pas là de quoi l'effrayer, bien au contraire. Et ce qu'elle pouvait souhaiter de mieux, c'était qu'on l'y laissât vieillir, qu'on l'y laissât mourir. N'aurait-elle pas accompli sa tâche en ce monde si elle remplissait le rôle que M. Méraud lui avait tracé? Et ne trouvera-t-elle pas dans sa conscience des satisfactions qui l'empêcheraient de regarder en arrière, dans la vie qu'elle avait imaginée autant heureux où, ayant son père près d'elle et se fiant en lui, elle croyait pouvoir tout espérer? Se marier, il ne fallait pas qu'elle y pensât, car avec son éducation et ses goûts, le mariage était pour elle impossible. Les hommes qu'elle pourrait aimer ne voudraient pas d'une pauvre fille comme elle, et elle, si pauvre qu'elle fût, ne voudrait pas de ceux que leurs conditions et surtout leur éducation rendrait indulgent pour sa pauvreté et qui, misérable même, lui demanderait d'associer leur de misère. Le beau radeau lui avait donné une leçon assez rude pour qu'elle ne l'oubliât jamais. Vieille fille, elle serait. Mais il y a des joies aussi pour les vieilles filles. Et si elle n'avait pas d'enfant à elle à aimer, elle aimerait celle qu'elle élèverait. Dans le nombre, elle en trouverait certainement qui mériterait qu'elle s'attachât à elle autrement qu'en maîtresse d'école. Et de celle-là, elle ferait ses enfants. Elle les suivrait dans la vie, et quand, mariées, elles auraient des enfants à leur tour, elle les élèverait. Elle en ferait d'honnêtes femmes, comme leur mère. N'était-ce donc rien que cela? Enfin, après tant d'épreuves, la vie paraissait lui sourire.